au plus près de la recherche sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Le travail, vaste sujet, source de plaisir parfois, comme pour moi ce midi avec vous, ou source de souffrance pour certains, source en tout cas d'interrogation lorsqu'il s'agit de penser la qualité de vie au travail et principalement celle des travailleurs handicapés ou celle des personnes handicapées par un problème de santé. Nos invités du jour se sont penchés sur cette question de la qualité de vie au travail des personnes handicapées et de l'impact que cela peut avoir sur leur santé. Tous deux, à différents niveaux, sont impliqués dans Cali Travail, un observatoire national sur la santé et la qualité de vie au travail pour les personnes en situation de handicap, vous l'aurez compris. En partenariat avec la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, et l'OCIRP, au plus près de la recherche, et bien c'est tout de suite sur Vivre FM. Bonjour et bienvenue à nos invités. Bonjour Fabien Vallée, vous êtes responsable études et statistiques chez Ariane Conseil.
Bonjour.
Et bonjour Rosane Legendre, vous êtes chargée de mission handicap et formation à la Fédération nationale des offices publics de l'habitat.
Bonjour.
À Paris, ou de Paris en tout cas.
À Paris.
À Paris. Merci à tous les deux d'être en plateau avec nous aujourd'hui pour nous parler d'un observatoire national sur la santé et la qualité de vie au travail des personnes handicapées ou des personnes avec des problèmes de santé et qui se retrouvent en situation de handicap, quand bien même elles ne sont pas, on va dire, officiellement reconnues comme des personnes handicapées. C'est une précision qui a son importance. On va y venir. Peut-être avec vous, Fabien, d'abord un mot de cet Observatoire national sur la santé et la qualité de vie au travail. D'où est venue cette idée? C'était une première en France quand vous avez commencer, puisqu'il y a déjà eu deux observatoires.
Mmh, absolument.
Alors, d'où est venue cette idée? Pourquoi avoir eu cette envie chez Ariane Conseil de... Alors, est-ce que l'envie est venue d'Ariane Conseil? En tout cas, comment s'est constitué cet observatoire?
Alors, la genèse un peu de l'observatoire, il y avait deux choses différentes. La première chose, c'est qu'en effet, on voulait faire un point depuis la loi 2005 sur la santé et qualité de vie au travail des salariés en situation de handicap. Si je prends le penchant un petit peu statistique ou scientifique, c'est vrai qu'à ce jour, nous ne disposions pas de données suffisamment importantes ou d'indicateurs sur la santé, donc sous tous ses aspects, et la qualité de vie au travail des salariés en situation de handicap. Donc ça, c'était le premier point, c'était de pouvoir disposer, en tout cas de pouvoir mettre à disposition de l'ensemble des acteurs du handicap, des indicateurs de manière durable, d'où observatoire. Et puis le deuxième aspect, c'était que chez Ariane Conseil, ça fait près de 26 ans qu'on a une expertise sur le handicap, sur la qualité de vie au travail, et il nous a semblé tout naturel de regrouper ces deux champs au sein de cet observatoire.
Et donc l'Observatoire national, il y en a eu un premier, il y a déjà du coup quelques années.
Oui, absolument. Le premier a été lancé en 2014, et c'est quelque chose qu'on renouvelle tous les deux ans pour finalement laisser le temps d'analyser les résultats, de faire des recommandations au niveau des résultats et d'agir. Parce que ce n'est pas juste un thermomètre, en fait. Donc, c'est tous les deux ans. Et donc là, on est déjà à la deuxième session.
Et alors, je reviens sur cette précision, personnes handicapées ou avec des problèmes de santé et donc en situation de handicap. Est-ce à dire que ces personnes-là, qui étaient, j'imagine, dans d'autres enquêtes par ailleurs, qui ne concernent pas spécifiquement le handicap, on voulait ici les prendre sous l'angle du handicap? Voilà, pourquoi avoir fait...
Alors absolument, effectivement, c'est quand on parle de personnes en situation de handicap, ce sont des situations de handicap qui sont soit reconnues officiellement, donc administrativement reconnues, donc par exemple une RQTH, soit des personnes qui sont en situation de handicap qui sont peut-être pas encore reconnues, comme par exemple les maladies chroniques, qui sont des situations handicapantes au travail, ou en tout cas au sens de la loi, mais qui ne sont pas encore reconnues.
Et qui sont de plus en plus nombreuses?
Absolument, de plus en plus nombreuses, oui.
Alors on n'avait pas de données avant ces observatoires, on en a maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'on ne faisait rien avant? Et alors là, je me retourne aussi peut-être vers Rosane Legendre. Vous représentez la Fédération nationale Office public de l'habitat et vous êtes chargée de mission handicap et formation. J'imagine que vous n'avez pas attendu qu'il y ait cet observatoire national pour agir. Et donc... voilà, qu'est-ce qui se faisait avant et qu'est-ce que ça vous a amené de participer et du coup, qu'est-ce que vous en attendiez?
Alors en fait, au niveau de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat, finalement, le timing était plutôt bon puisque en fait, on est une fédération donc, qui regroupe 246 offices publics de l'habitat, donc des bailleurs sociaux dont la particularité, c'est d'être attachés à des collectivités territoriales. Et donc au niveau de la fédération, donc c'est 49 000 personnes hein, sur le territoire national. Et donc au niveau de la fédération, on anime en fait le dialogue social au niveau de la branche professionnelle. Et donc en fait, nous, au niveau de la branche, les partenaires sociaux ont signé leur premier accord handicap en 2014. Donc, lorsque on a signé cet accord handicap, la première étape, c'était de faire un diagnostic conseil, un état des lieux en fait de la situation de l'emploi des personnes en situation de handicap dans la branche.
Ça voulait dire qu'avant 2014, finalement, on n'avait pas vraiment étudié ce sujet-là.
Enfin, pas au niveau de la branche, effectivement. En fait, les offices, de façon totalement indépendante, pouvaient avoir mis en place des choses. Donc, on en avait qui étaient très en avance sur le sujet, d'autres qui n'étaient pas du tout. On est sur des offices, hein, qui ont une taille moyenne autour de 170 collaborateurs, avec des plus gros jusqu'à 3000 personnes, qui ont parfois des politiques handicap très avancées, mais pas tous. Et donc, au niveau de la branche, le sujet en fait, a été pris à bras-le-corps à partir de 2014. Donc, on a réalisé un diagnostic conseil. Et à l'époque, donc, c'était Ariane Conseil qui avait été retenue pour réaliser ce diagnostic. Et donc, ça tombait au bon moment. Le monde est bien fait, puisque c'était au moment où CaliTravail était lancé pour la première fois. Et donc, en fait, Ariane Conseil nous a proposé d'intégrer CaliTravail au diagnostic conseil pour pouvoir apporter des éléments complémentaires à notre diagnostic. Donc, on a forcément accepté.
Quand vous dites justement on a forcément accepté, c'est-à-dire vous avez quand même dû vous dire « Ah oui, ça va nous apporter quoi justement ?» Quel était l'intérêt principal pour une entreprise comme la vôtre, mais plus généralement pour une entreprise, de participer, et qu'est-ce que vous en attendiez ?
Alors, la volonté, c'était pour la première édition de faire un premier état des lieux. Ce qui est intéressant, à mon sens, dans CaliTravail, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des résultats comparés au panel, donc au panel de répondants. Donc, ça nous a permis pour la première édition, en fait, de pouvoir situer la qualité de vie au travail des personnes handicapées dans notre secteur par rapport à un panel plus global, et donc de pouvoir jauger si on était plutôt bon ou si on avait des axes de travail à approfondir. Et donc l'observatoire, ce qui est important, et ça on l'a noté dans notre convention AGFIP dès 2016, on souhaitait dès la première édition finalement renouveler, parce que on a des résultats à un instant T. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir mesurer des tendances en participant aux éditions suivantes, donc la seconde, puis dans deux ans, la troisième, et aussi longtemps qu'on le pourra, pour pouvoir observer les tendances, justement, les axes de travail, pouvoir voir si la qualité de vie de nos collaborateurs diminue, ou si on a des indicateurs qui s'améliorent, et quels sont les axes de travail.
Alors, justement, axe de travail, comment on fait et comment Ariane Conseil a fait techniquement pour bâtir cet observatoire, et qu'est-ce qu'on va trouver dedans ? Parce que pour l'instant, on parle un petit peu, on va dire, c'est théorique, on se dit on va étudier la qualité du travail, mais concrètement, comment on fait ? Et vous êtes parti de quels outils, de quelles données pour construire cet observatoire ?
Alors, juste pour rebondir un tout petit peu sur ce que disait Rosane, effectivement, l'intérêt pour nous était double au niveau de CaliTravail, c'était certes de disposer d'indicateurs pour pouvoir alimenter un peu tous les acteurs, et faire à terme des recommandations au niveau institutionnel, mais au niveau des pouvoirs publics, etc. Mais il y avait aussi au niveau local, et c'est ce qui s'est passé assez remarquablement bien avec OPH, c'est de pouvoir alimenter les réflexions pour nourrir finalement toutes les politiques handicap. Voilà, donc ça c'était pour compléter. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? C'est votre question en gros. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Effectivement, Alors, la difficulté était qu'il fallait qu'on passe un questionnaire, donc passer un questionnaire en entreprise, c'est toujours compliqué, qui soit simple, qui reprenne, j'allais dire, les standards scientifiques de l'évaluation de la santé. Et ce qu'on a finalement décidé de faire, c'est de trouver le juste milieu, le juste équilibre entre la validité, les contenus, pour qu'on puisse tirer des préconisations qui soient opérationnelles. On n'est pas juste là pour faire des mesures en disant on a plein d'indicateurs. Ces indicateurs, il faut qu'ils soient concrets, opérationnels, et qu'ils nous servent après à aller de l'avant, à mettre en place des actions et à les suivre. Et puis, il y avait aussi le côté accessibilité. C'est un questionnaire en ligne. Donc, on a travaillé à l'accessibilité numérique au niveau des supports, évidemment, le site Internet, mais également au niveau de la construction des contenus des questions, de sorte que ça soit une véritable accessibilité.
Alors, OK, mais du coup, qu'est-ce qu'on y trouve ? C'est-à-dire, concrètement, c'est quel type de questions, c'est quel type d'informations, et voilà, pour que nos auditeurs puissent réaliser concrètement s'ils ont envie de participer à la prochaine étude en ligne. Répondre à quoi ?
On va y trouver deux types de mesures. On va d'abord trouver dans un premier temps des mesures de type individuel. Donc on va mesurer tout un tas d'indicateurs sur la santé des salariés, la santé physique, la santé psychique, la santé morale. On va poser des questions sur la qualité de vie au travail. À titre d'exemple, pour être concret, il va y avoir une échelle de 0, entre 0 et 100. Votre qualité de vie au travail, elle est 0 très mauvaise et 100 excellente. Donc ça va être l'ensemble de mesures qu'on va dire individuelles. Et puis, il va y avoir aussi des mesures environnementales qui vont être, par exemple, est-ce que vos relations avec vos managers sont satisfaisantes? Est-ce que votre environnement de travail est satisfaisant? Et finalement, l'intérêt d'avoir ces deux types de mesures, c'est qu'on va identifier dans les populations les répondants qui ont plus ou moins des scores élevés ou plus ou moins faibles, et qu'avec les mesures environnementales, on va essayer d'aller trouver des explications de pourquoi ils ont des scores plus faibles, pourquoi ils ont des scores plus élevés.
Et quelle est la grosse différence, on va dire, entre votre observatoire et des études qui peuvent se faire par ailleurs sur des travailleurs qui ne sont pas en situation de handicap ou qui n'ont pas de problème de santé? Est-ce qu'on part d'une étude, on va dire, qui concerne tout le monde et puis qu'on l'adapte? C'est-à-dire sur certains aspects, sur certaines questions, on dit « Ah, mais là, spécifiquement, est-ce que vous pensez que peut-être votre situation de handicap génère des problèmes ou en tout cas est un problème à traiter? » Comment ça s'est co-construit peut-être par rapport à un
public
ordinaire?
Alors en fait, c'est comme une étude, j'ai envie de vous dire, épidémiologique classique où on pose un certain nombre de critères. La seule distinction, comme on est sur une population de personnes en situation de handicap, c'est qu'en amont, on va poser un certain nombre de questions sur la nature du handicap, le type de handicap, le type de reconnaissance, de sorte qu'ensuite on soit capable d'identifier, par exemple, les types de handicap qui ont le plus de difficultés au travail et de trouver des pistes de solutions pour finalement améliorer leur quotidien.
D'accord, donc si je vous comprends bien, il y a avant un travail pour connaître un peu la personne.
Absolument.
Et ses problématiques.
Absolument.
Et puis ensuite une étude qui finalement concerne très largement, qui pourrait en tout cas s'appliquer à tout le monde.
Entièrement, oui, absolument.
Comment, en tant qu'entreprise, Rosane Legendre, enfin, pas vous, mais évidemment la Fédération nationale des offices publics de l'habitat que vous représentez, comment vous avez perçu cette étude? Enfin, les questions, le questionnaire, j'imagine que avant d'inviter vos salariés à y participer, vous l'avez regardé, vous l'avez étudié. Qu'est-ce qui vous a paru particulièrement intéressant, judicieux? Est-ce que vous aviez là-dessus, voilà, des critiques ou commentaires? Vous avez dit vraiment, elle est bien faite, c'est exactement ça qu'il nous fallait. Voilà, comment vous avez perçu cet observatoire?
Bah, on l'a plutôt bien perçu, je dirais. C'est comme le disait finalement Fabien, au départ, on retrouve une étude classique où on va poser des questions sur la personne et ensuite on va retrouver en fait des questions classiques en fait autour de la qualité de vie au travail. Donc, ce qui est à mon sens intéressant après, une fois qu'on l'a mise en place, c'est aussi d'avoir l'accompagnement d'Ariane Conseil pour les contextualiser les résultats. Parce que effectivement, on peut avoir des données brutes, on va avoir des chiffres de qualité de vie, mais brutes comme ça, voilà, il faut pouvoir les exploiter. Et c'est ça qui est, à mon sens, important. Donc on peut les comparer facilement avec le panel. Mais après, c'est aussi intéressant d'avoir vraiment l'accompagnement pour comprendre, peut-être que sur une question, finalement, on va avoir un score qui a progressé en 2 ans. Mais est-ce que c'est lié finalement à notre contexte à nous, où c'est lié au contexte de l'emploi de façon globale? Le contraire est aussi valable. Donc en fait, on est sur un questionnaire qui est globalement classique, qui est accessible, peut-être à la difficulté près que effectivement c'est un outil qui est numérique. Donc le plus accessible soit-il, on a énormément de personnel de proximité qui n'ont pas forcément tous accès à l'outil informatique. Mais bon, là, encore une fois, Ariane Conseil accompagne pour pouvoir avoir la possibilité d'imprimer les questionnaires, de quand même garder l'anonymat des personnes. Ça, c'est peut-être les difficultés nous qu'on a pu rencontrer, les limites en tout cas. Mais au-delà de ça, c'est un questionnaire qui est global. Et après, ce qui est important, c'est l'accompagnement qu'on a pour pouvoir comprendre les données qu'on reçoit.
Au plus près de la recherche sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour avec Rosane Legendre et Fabien Vallée en studio pour parler de Qualitravail, un observatoire national sur la santé et la qualité de vie au travail pour les personnes en situation de handicap. Rosane Legendre, vous nous disiez à l'instant que ce qui était extrêmement important au-delà des questions elles-mêmes, c'était qu'est-ce qu'on en fait après, comment on traite les données qu'on reçoit. Et donc vous êtes de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat. Ça, c'est une donnée sur laquelle vous avez été rassurée dès le début avec Ariane Conseil, ces attentes-là, en disant OK, ces données, on va les avoir. Mais si on vous suit, il faut que derrière, on soit sûr que l'information sera traitée et analysée et qu'on aura des outils supplémentaires. Peut-être c'était ça l'idée pour vous, des outils pour alimenter vos politiques de handicap dans l'entreprise?
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est la collaboration qu'on peut avoir avec Ariane Conseil, notamment pour reprendre comment ça s'est passé pour la seconde édition. On a mobilisé les offices ont mobilisé leurs collaborateurs. On a eu donc un nombre significatif de réponses nous permettant d'avoir des chiffres au niveau national. Une fois qu'on a ça, On a une première lecture avec, du coup, en l'occurrence, Fabien Vallet, des résultats obtenus. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des résultats bruts. On les compare, du coup, à la première édition, en l'occurrence 2015 pour nous. Donc, on voit des évolutions. Et ensuite, on peut avoir la possibilité, c'est ce qu'on avait fait dans un second temps, d'ajouter les chiffres du panel pour pouvoir comparer à la fois notre évolution et notre évolution par rapport au panel. Et ensuite, une fois qu'on a ces résultats, bon, nous, on se pose légitimement des questions par rapport à notre propre secteur. On se dit, bon, bah, sur cet indicateur, on a progressé. Bon, bah, qu'est-ce qu'on a fait de bien? À l'inverse, sur celui-ci, bah, on a diminué. Qu'est-ce qu'on a.
N'hésitez pas à donner des exemples pratiques, parce que c'est vrai qu'indicateur, peut-être.
Bah, par exemple, pour vous donner une idée, sur la communication, par exemple, la première édition, c'était plutôt un point d'alerte. C'est-à-dire que les collaborateurs estimaient que finalement, leur office n'avait pas forcément de politique en matière de handicap affichée, ne communiquait pas forcément sur le handicap dans leur structure. Donc, c'est quelque chose dont on a pu suivre l'évolution entre les deux éditions. Donc, on a pu après recontextualiser par rapport à nos actions et se dire, bah, on s'est amélioré sur ce point-là. Bon, bah, on peut à peu près le contextualiser. On a eu une dynamique au niveau national, on a créé des outils permettant aux offices de communiquer en interne, donc ça s'explique. À l'inverse, pour prendre un exemple un peu contraire, sur les indicateurs de QVT, qualité de vie au travail, effectivement, on avait lors de la première édition des chiffres supérieurs au panel. Lors de la seconde édition, on a eu des taux légèrement inférieurs par rapport à notre première édition. Donc nous, on se pose la question forcément, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans notre secteur pour que ces chiffres diminuent? Sauf que justement, on fait le point avec Ariane Conseil, on se rend compte qu'on a des chiffres toujours supérieurs au panel, donc finalement que la qualité de vie au travail est toujours supérieure par rapport aux autres entreprises, associations qui ont été sollicitées. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est lié à notre secteur? Pas forcément, c'est peut-être aussi lié au marché de l'emploi. Donc il faut, voilà, y a tout un accompagnement derrière qui permet de prendre un peu de recul sur les chiffres et quand même de dégager des tendances, plus que finalement des chiffres bruts.
C'est là que votre expertise, Ariane Conseil, est vraiment extrêmement importante, plus que sur l'avance et après, une fois qu'on a les résultats.
C'est ça, effectivement. Récolter des données, analyser les résultats, ça peut être facile, mais le plus compliqué, finalement, c'est une interprétation qui soit, j'allais dire, pertinente. Et finalement, c'est pas tant la première session qui est importante, parce qu'on va avoir des mesures, finalement, un peu étalons, parce que c'est la première fois qu'on le fait. C'est finalement le suivi, c'est comme le suivi médical. On peut très bien vivre avec des seuils d'hypertension un peu élevés et c'est le suivi de ces seuils-là qui est important. C'est la variation, l'analyse des variations qui est importante. Et c'est ce qu'on a fait avec justement la fédération. C'est justement les accompagner sur, vous avez fait une première session, voilà les indicateurs. Vous avez cette comparaison par rapport au panel pour avoir une première idée de comment ça se passe. Mais ce qui est important, c'est votre suivi, le suivi de vos propres indicateurs sur la durée, tout en maintenant la comparaison avec le panel, parce qu'effectivement, la qualité de vie au travail, elle se détériore depuis quelques années.
Comparaison avec le panel, c'est comparaison aussi avec ce qui se passe dans les autres entreprises, avec globalement l'ensemble des collaborateurs.
Avec l'ensemble des employeurs qui ont invité leurs collaborateurs à prendre part c'est à peu près 600 employeurs depuis le début de l'observatoire.
600 employeurs et combien de collaborateurs du coup qui ont...
On en est à un peu moins de 3000 dans le panel aujourd'hui.
Alors parmi les personnes qui ont répondu présentes, comment on les sollicite justement en tant... dans votre cas, pas en tant qu'employeur, je m'excuse tout à l'heure, j'ai dit les salariés de la Fédération nationale des offices publics d'habitat, ce n'est pas exact, vous travaillez avec des offices qui, elles, ont des salariés. Comment on fait pour motiver les collaborateurs à répondre et est-ce qu'on les sélectionne, est-ce qu'on les trie? Puisque, évidemment, ce qui va nous intéresser, c'est les personnes en situation de handicap.
Alors, pour la Fédération des offices, donc déjà, nous, on a une campagne où on communique auprès des offices pour les mobiliser. Donc, nous, on va communiquer en envoyant des mails, en informant sur notre site internet les directions des offices, les directions des ressources humaines pour leur dire, voilà, on va lancer Quali Travail. Derrière, ça nous permet d'avoir des chiffres pour alimenter une politique nationale. Donc, mobilisez vos collaborateurs si vous le souhaitez. Vous avez des outils qui sont mis à disposition. On a notamment, Ariane Conseil nous met à disposition un kit de communication pour pouvoir communiquer auprès des collaborateurs sur cet observatoire. Donc, les offices qui ont accepté de participer à cette étude, du coup, en interne, communique, utilise le kit de communication. Donc, ça passe par des affiches, ça passe par des mails. Certains sont passés par l'intranet également pour informer leurs collaborateurs et donc avec effectivement le lien pour avoir accès à ce questionnaire. Donc, en fait, la diffusion, l'information se fait auprès de tous les collaborateurs. Tous peuvent aller remplir le questionnaire. Sauf que les premières questions, en fait, filtrent finalement les personnes qui vont pouvoir continuer à répondre aux questions. L'une des premières questions, c'est, il me semble, Fabien, vous me dites si je me trompe, est-ce que vous rencontrez des difficultés de santé au travail? Si oui, bah, le questionnaire continue, sinon vous sortez du questionnaire.
C'est ça, on a tout un tas de filtres parce qu'effectivement, il y a une variable qui est très importante, c'est l'anonymat. C'est-à-dire qu'on est sur la récolte de données de santé. Donc c'est très important, d'une, parce que c'est juste la loi, tout simplement. De deux, parce que ça va inciter les salariés à prendre part au questionnaire parce qu'ils se sentent un petit peu plus sécurisés. Qu'est-ce qu'on va faire de mes données? On ne va pas en faire n'importe quoi. On récolte ça dans les standards de recueil de données de santé. Donc c'est vrai qu'il y a un premier filtre dans les messages de communication. Si vous êtes en situation de handicap ou en difficulté de santé, cette enquête est faite pour vous. Et puis, il y a un second filtre au niveau du questionnaire lui-même où on va poser tout un tas de questions. Est-ce que vous bénéficiez d'une reconnaissance? On va lister de manière très exhaustive les reconnaissances officielles de situation de handicap. Et puis, il y aura une petite case, aucun choix ne correspond. Et dans ces cas-là, on remercie la personne en disant « vous ne correspondez pas à la cible ».
Vous n'êtes pas assez handicapé. Revenez plus tard.
Éventuellement.
Avec une maladie chronique.
Avec une maladie chronique, effectivement.
Alors, les collaborateurs invités à répondre à l'étude, on le voit, ils y ont accès, on les informe. Mais qu'est-ce qui va faire si vous avez là-dessus des retours, qu'ils vont se motiver pour y répondre? Est-ce que c'est un besoin d'exprimer des choses qu'ils n'arrivent pas à exprimer peut-être par ailleurs, qu'ils ne peuvent peut-être même pas exprimer en interne ou avec leur hiérarchie? Est-ce que c'est ça? C'est un besoin d'échange, un besoin de reconnaissance? Et est-ce qu'il y a une attente, du coup, forte, là encore, de leur part quand ils répondent? Je ne sais pas qui veut se lancer là-dessus, peut-être.
Peut-être commencer de manière assez globale par expérience avec l'ensemble des employeurs qui ont déjà participé. C'est vrai qu'il y a deux points à voir assez importants. Le premier, c'est qu'on crée des attentes. On crée des attentes parce qu'on va solliciter les salariés, on va leur demander de leur temps, on va leur demander de nous faire des propositions, de nous faire des commentaires sur comment ils ressentent la vie, les conditions de travail, etc. Donc, c'est vrai que dans les entreprises chez les employeurs pour lesquels on n'a pas eu forcément de retour en termes de communication une fois la première session, c'est vrai que la deuxième session tombe à l'eau parce que les salariés se disent « j'ai participé, j'ai contribué, j'ai plus rien ». Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ils ont besoin, ils ont envie et ils sont très constructifs. Parce qu'on a tout un tas de questions ouvertes où ils vont pouvoir donner des commentaires. Et il y a une richesse. Déjà, il y a un nombre de commentaires qui est juste phénoménal. Et en plus, il y a une richesse et une volonté d'agir, finalement, qu'ils prennent via l'Observatoire.
Rosane, vous, à la FOPH, vous avez ce même ressenti
Ouais, je dirais que on découle des bénéfices directs et indirects. Je dirais que directement, c'est effectivement l'opportunité de s'exprimer. C'est-à-dire qu'on vous demande votre avis et on vous laisse ce temps de parole. Donc c'est important pour eux, je pense, de saisir cette opportunité-là. Mais encore faut-il avoir confiance et se dire que l'employeur finalement va effectivement se servir de ces données. Donc en fait, pour avoir échangé avec les offices qui ont participé, hein, nous dans la branche des offices, en fait c'est de façon plus globale, c'est-à-dire que ils savent qu'il y a une démarche qui est nationale. Parfois il y a une démarche forte localement. Donc en fait répondant à ce questionnaire, ça permet indirectement d'alimenter une réflexion nationale. Derrière, nous, au niveau national, on crée des outils en réponse, finalement. On analyse, on a des résultats, on sait qu'on a des efforts à faire sur tel ou tel axe. On va créer des outils pour améliorer ces effets-là, qu'on va mettre à disposition des bailleurs. Et derrière, finalement, ils vont en retirer à moyen long terme des bénéfices.
Alors, un exemple concret peut-être d'un outil créé suite à justement au premier observatoire, peut-être?
On parlait du premier observatoire et notamment de notre axe de travail qui était à l'époque la communication. On se rendait compte qu'il y avait certainement des choses qui étaient bien faites dans les offices, mais on ne communiquait peut-être pas assez auprès des personnes en situation de handicap. L'une des premières actions qu'on a faites, déjà je pense qu'il y a eu la création de la mission handicap nationale avec une dynamique nationale, donc des offices qui se sont réengagés, parfois simplement engagés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de politique, il y a eu une démarche globale, donc ils se sont intégrés à cette démarche. Pour certains, il y avait eu des dynamiques enclenchées qui se sont essoufflées, ça a été l'opportunité de relancer des démarches en interne, donc ils ont pu voir finalement que le sujet reprenait. Et l'une des premières actions qu'on a mis en place dans le cadre de notre travail avec la GFIP, c'est la création d'un kit de communication. Donc on avait des affiches pour démystifier un petit peu le handicap, mais également un livret d'informations sur la démarche de reconnaissance à la qualité de travailleur handicapé, donc la RQTH, qui derrière a été mis à disposition des offices pour que eux-mêmes puissent les transmettre à leurs collaborateurs. Et on s'est rendu compte dans la seconde édition que sur l'aspect communication, il y avait eu les indicateurs étaient meilleurs. Donc effectivement, c'est un exemple par exemple d'outils qu'on a créé.
C'est pas du handicap washing comme on ferait du greenwashing, c'est pour se donner bonne conscience, se dire bah tiens regardez on a des bons chiffres, on a des bons résultats et derrière il se passe rien. Les employeurs avec lesquels vous êtes en contact ont tous une démarche active derrière pour faire changer les choses. Ça, je veux dire vraiment on s'en assure.
Par défaut, oui, j'ai envie de dire les employeurs qui incitent leurs collaborateurs à participer, il y a déjà un engagement par défaut. Parce que les autres, ils participent à Qualitravail de toute façon.
Il y en a qui refusent, vraiment.
Oui, il y en a qui refusent. Alors, il y en a qui refusent, on ne va pas les citer, évidemment. Il y en a qui refusent pour des raisons de calendrier politique. Il y en a qui refusent parce que, effectivement, ça implique de mettre en place des actions par la suite. C'est-à-dire que ce n'est pas juste une prise de température. Il faut faire quelque chose, parce que sinon, ça risque d'ouvrir quelque chose qui ne nécessitait pas forcément d'être ouvert, on va dire.
Vous avez beaucoup qui refusent. Quel est le pourcentage par rapport aux employeurs contactés? On va dire, ça reste quelque chose de marginal ou c'est...
C'est
gênant.
C'est gênant. Non, question. C'est pas ça. C'est que c'est compliqué parce qu'il n'y a pas uniquement l'argument du contexte de l'entreprise. Il y a aussi l'argument qu'on est dans un monde du travail où les collaborateurs sont très régulièrement harcelés par des questionnaires en ligne, des enquêtes de satisfaction, etc. Donc, il y a aussi cet argument qui fait foi. Je pense qu'on arrive probablement dans un monde complètement transformé au niveau numérique qui fait que des enquêtes par questionnaire, c'est compliqué dans les entreprises de nos jours. Donc c'est vrai que ça nous incite à réfléchir à une autre forme d'administration du questionnaire parce qu'il faut qu'on garde ce recul.
Ouais. Après, il y a quand même des priorités. C'est-à-dire, c'est pas un questionnaire lambda, c'est un questionnaire qui concerne la personne et sa qualité de vie au travail. Ça peut peut-être passer avant le questionnaire pour savoir, je sais pas, qu'est-ce
absolument,
que
oui, absolument.
La couleur des bureaux qu'il va avoir.
Absolument, ou ça, c'est vrai que ça passe quand même plutôt bien. Auprès des différents acteurs de santé, en général, ça passe bien.
Au plus près de la recherche sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour pour encore un petit moment, mais un bon moment, avec Rosanne Legendre de la Fédération Nationale des Offices Publics de l'Habitat et Fabien Vallée de Ariane Conseil. Nous parlons toujours de l'Observatoire National sur la Santé et la Qualité de Vie au Travail pour les personnes en situation de handicap. Et ça nous intéresse beaucoup parce que ça reviendra. Hein. C'est pas parce qu'il y en a deux qui ont été terminés. Si vous nous écoutez, it will be back, cette enquête. Enfin, je sais, faut pas dire enquête, observatoire. Mais ça reviendra. Donc, vous pourriez participer, que vous soyez employeur. Et si vous êtes collaborateur, salarié d'entreprise, pourquoi ne pas en parler à votre entreprise aussi? Il y a beaucoup d'entreprises, Fabien nous le disait à l'instant, qui jouent le jeu, qui participent à cet observatoire de plus en plus. Alors, il y en a qui, pour X ou Y raison, ne participe pas encore, mais rien n'est perdu. Est-ce que toutes les institutions aussi, c'est ouvert à vraiment tout type d'employeurs?
Oui, absolument,
et institutions?
Oui, absolument. Employeurs publics, privés, associatifs, toutes les institutions et les entreprises peuvent travailler, les employeurs peuvent inciter leurs collaborateurs, mais moi, individu d'une entreprise pour laquelle mon employeur ne veut pas forcément, j'ai aussi le droit, en tant qu'individu, de participer à l'observatoire.
Partout où il y a des personnes en situation de handicap, et il y en a beaucoup, il y en a partout. Alors, ça tombe bien. Et les effets de cet observatoire, on en a déjà dit un mot avec vous deux, Fabien et Rosanne, mais j'aimerais qu'on y revienne. Il y a un effet bénéfique, on va dire direct, qui est que ces résultats sont analysés et que, effectivement, en tant qu'employeur ou en tant que fédération, dans votre cas, vous allez prendre en compte tout cela. Mais il y a des effets bénéfiques indirects, on va dire, c'est-à-dire que ça va jouer à d'autres moments dans l'entreprise et que ça va améliorer globalement la situation pour les personnes en situation de handicap?
Oui, tout à fait. Enfin, c'est le handicap, ce qui est important à mon sens dans une entreprise, c'est de pouvoir en parler souvent, pas juste à l'occasion d'un rendez-vous dans l'année. Je pense notamment à la semaine pour l'emploi des personnes handicapées qui a lieu en novembre. Le handicap, il faut pouvoir en parler à tout moment de l'année. Et participer à Qualitravail, c'est permettre de donner la parole à ces personnes-là à un autre moment de l'année. Nous, en l'occurrence, c'était il y a un an, donc au printemps. Et derrière, finalement, le fait d'en parler, ça permet d'en parler tout le temps. Ce qui est important, et les offices qui ont témoigné, nous, sur le sujet, qui nous ont fait des retours, c'est que ça leur a permis de parler du handicap au printemps et de pouvoir en reparler après, à l'issue, lors de la semaine du handicap, d'éventuellement parler et présenter les chiffres. Donc ça permet de montrer qu'on se préoccupe de ce sujet-là tout au long de l'année, et que c'est pas juste un sujet justement pour faire beau et pour dire qu'on est un employeur responsable. Donc au-delà de ça, ça permet de redynamiser, ça permet de rappeler ce qu'est le handicap, ce qu'il n'est pas. Voilà, ça contribue de façon plus globale à une démarche handicap responsable pour tout employeur qui y participe.
Et puis au-delà même du handicap visible, on va dire, eh bien ça va permettre aussi d'alerter sur le handicap invisible, sur les maladies chroniques, sur je sais pas, le cancer, sur des mots qui sont encore un peu tabous en entreprise, ou en tout cas des problématiques qui sont pas forcément partagées, dont on ne parle pas forcément.
Absolument, effectivement, qui sont pas forcément, j'allais dire par exemple dans des accords intégrés dans des accords handicap, comme action dans des accords handicap. Et c'est vrai que on s'est rendu compte, par exemple, dès la première session, on s'est rendu compte qu'on avait parmi les répondants un très fort pourcentage de personnes en situation de maladie chronique, donc qui n'avaient pas forcément de reconnaissance, donc pour lesquelles chez certains employeurs, il n'y avait pas forcément de structure qui était mise en place, ou en tout cas de dispositifs qui pouvaient permettre de compenser un certain nombre de difficultés que ces personnes rencontraient au travail. Et c'est vrai que, par exemple, certains employeurs qui avaient constaté aussi ces pourcentages assez élevés de personnes en situation de maladie chronique ont du coup, l'année suivante, mis en place lors d'événements, notamment lors de la SEPH, de sensibilisation sur le handicap invisible, sur le handicap psychique également, parce que c'était des chiffres assez... des indicateurs assez faibles en termes de QVT et de conditions de travail. Donc ils ont pris finalement le sujet à bras-le-corps, ils ont fait des sensibilisations, des ateliers, et pour insérer un petit peu plus ce sujet dans le handicap globalement.
Vous pensez qu'il y a encore des secteurs dans ces personnes en situation de handicap qui ne sont pas encore visibilisés, peut-être à travers l'enquête, des points faibles, des choses à améliorer pour le prochain observatoire, où on arrive là, sur ce deuxième observatoire, à avoir bien pris en compte dans leur globalité c'est les personnes en situation de handicap?
Alors, je vais d'abord vous faire une réponse de statisticien, c'est qu'on n'a pas encore suffisamment de représentativité parmi les différents types de handicap. Pour la simple et bonne raison qu'il y a certains types de handicap pour lesquels on a du mal finalement à obtenir des données.
Voilà. Qui sont
en général le handicap psychique, principalement le handicap psychique.
Et est-ce que c'est parce que c'est aussi...
C'est aussi une difficulté d'accès au questionnaire, tout simplement.
Mais parce qu'eux ont aussi plus de difficultés d'accès à l'emploi, ou c'est pas lié directement
à la
représentativité?
C'est pas forcément lié, ça peut être tout simplement lié à la longueur du questionnaire, parce que c'est quand même un questionnaire long.
Combien de temps d'ailleurs pour y répondre? Tout à l'heure vous disiez il y a vraiment des questions ouvertes.
Une quinzaine de minutes, ce qui est correct.
Raisonnable.
Voilà. Ce qui reste raisonnable, mais c'est vrai que si on veut investiguer correctement les choses, on ne peut pas juste poser 10 questions, parce que c'est vrai que c'est pas assez exhaustif.
Donc le handicap psychique qui reste sous-représenté et qu'on espère...
Voilà, qui reste sous-représenté, mais pour lesquels on a déjà des indicateurs qui sont assez faibles et qui nous invitent finalement à s'attarder un petit peu plus dessus pour essayer de comprendre pourquoi il y a des scores de QVT beaucoup plus faibles, pourquoi il y a des facteurs qui sont assez différents par rapport aux autres situations de handicap, pour qu'on puisse finalement, parce que l'objectif c'est ça, c'est pas juste de parler des chiffres, c'est de se dire, on a les chiffres, on a les constats, qu'est-ce qu'on peut faire derrière pour faire bouger ces chiffres, pour que ça aille mieux en fait.
Et parmi les bonnes pratiques qui ont été mises en place suite à ces observatoires, est-ce que vous avez eu, puisque vous accompagnez les entreprises bien sûr dans cette deuxième étape, est-ce qu'il y a des échanges de bonnes pratiques entre les entreprises? Est-ce que ça s'auto-alimente au bénéfice des personnes en situation de handicap parce qu'il y a ces échanges, il y a ces partages d'informations, de situations?
Alors, entre les entreprises, je ne sais pas trop, parce qu'effectivement, souvent, quand on intervient, c'est assez cloisonné, et bon, ce sont un peu des données confidentielles, donc on va pas non plus parler des indicateurs QVT du petit voisin. En revanche, au sein même de l'entreprise, c'est vrai que ça peut débloquer un certain nombre de choses, et ça peut surtout débloquer la parole, non seulement des personnes en situation de handicap, mais de tous les acteurs qui sont autour. Parce que le tabou, il n'est pas forcément que d'un côté.
Est-ce que vous avez senti, vous aussi, Rosane Legendre, ce que nous disait Fabien à l'instant, une différence dans la prise en compte des handicaps, ou en tout cas identifier un point sur lequel peut-être vous êtes un peu plus faible, c'est-à-dire par exemple sur le handicap psychique qu'on a plus de mal peut-être à percevoir? Est-ce que vous avez noté ces différences-là?
Alors, on n'a pas forcément noté de façon très significative ces différences-là. Maintenant, on a notamment sur la question de la reconnaissance du handicap, nous, des chiffres légèrement inférieurs, c'est-à-dire les personnes qui ont répondu. On a un chiffre inférieur au panel, c'est-à-dire qu'on a plus de personnes qui ne sont pas reconnues, qui répondent, que dans le panel de façon générale. Donc on a peut-être quelque chose à faire sur l'accompagnement, à comment on accompagne nos collaborateurs vers la reconnaissance pour derrière bénéficier de compensation. Donc il y a cet axe de travail-là. Puis j'en profite pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, vous évoquiez le fait que ça peut permettre l'échange de bonnes pratiques entre entreprises. lorsqu'une entreprise sollicite Qualitravail, certes, ça alimente en interne. L'avantage, nous, au niveau de la fédération, d'avoir mobilisé plusieurs bailleurs, c'est que du coup, ça permet l'échange de bonnes pratiques dans notre secteur entre offices. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on fait et qui est très, très apprécié par les bailleurs. On a un réseau de référents handicap d'une vingtaine aujourd'hui d'RH. Et voilà, ils adorent ça, pouvoir justement écouter leurs voisins, savoir comment eux gèrent les situations en interne, ce qu'ils mettent en place. Et donc au niveau en tout cas d'une branche professionnelle, participer à Qualitravail, mobiliser ses adhérents pour avoir des chiffres au niveau national, ça permet d'avoir l'échange de bonnes pratiques derrière et donc ça tire forcément vers le haut tous ceux qui y participent.
Alors tous ceux qui y participent justement, et ces résultats, comment ils sont partagés plus largement? Vous le disiez, par entreprise, c'est un petit peu confidentiel, hein, on va pas mettre sur le marché les résultats d'un tel ou d'un tel. Pour autant, il y a quand même une communication globale. Absolument. Sur l'ensemble, ouais, de ces résultats.
Oui, il y a une communication globale. J'allais dire, on réalise des rapports publics dans un premier temps, ne serait-ce que pour le retour sur investissement des collaborateurs qui se sont investis, etc. Donc c'est important pour eux de leur dire, voilà ce que nous on a fait de vos chiffres au niveau national, indépendamment des aspects des restitutions locales qu'on fait auprès des employeurs. Et ensuite, on travaille, c'est-à-dire que là, après cette partie quantitative, on travaille, notamment à l'issue de la première session où on s'était rendu compte que, effectivement, les personnes en situation de maladie chronique avaient des indicateurs plus faibles. On a monté un groupe de travail pluridisciplinaire pour creuser un petit peu plus les résultats quantitatifs et pondre, entre guillemets, des préconisations. Et c'est ce qui va sortir très prochainement sur un livre blanc autour des maladies chroniques et du travail.
Très prochainement
D'ici l'été.
D'ici l'été.
Donc absolument.
On pourra peut-être communiquer à ce moment-là. Un dernier mot, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, avant que je parle d'un tout autre sujet qui concerne les nouvelles technologies. Alors, micro, Fabien, vous me disiez que quand on parle de personnes en situation de handicap et des travailleurs handicapés, l'effet des nouvelles technologies sur ces personnes-là est peut-être un petit peu différent que dans le milieu ordinaire.
Oui, c'est vrai, absolument. On a constaté que quand on réalise des enquêtes ou des observatoires globaux sur l'ensemble des salariés, c'est vrai que l'impact des nouvelles technologies au travail est souvent délétère sur la santé, notamment sur la surcharge mentale, la santé. Et on s'est rendu compte qu'au niveau des personnes en situation de handicap, ce facteur était plutôt protecteur. Donc on s'est posé un certain nombre de questions, notamment est-ce que tout ce qui est nouvelles technologies, il n'y a pas une partie qui sont des outils de compensation numérique, tout simplement.
Donc peut-être qu'on en saura plus sur ça va être mieux pris en compte peut-être dans le prochain observatoire.
Absolument. Alors, on va creuser, effectivement.
Le prochain observatoire, c'est quand?
2019.
Et pour y participer, on peut déjà prendre contact avec Ariane
Français?
Absolument.
Oui, absolument.
Sur et le déjà site. Aller en ligne voir ce qui s'est fait et voir aussi sur le site de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat, puisqu'il y a aussi des informations qui concernent cette étude. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous en studio.
Merci à vous.
J'espère
Merci.
À bientôt, peut-être, pour le prochain observatoire. Et puis avant de nous quitter, moi j'en profite pour vous dire que la FIRA vient de publier Trucs et astuces pour l'usage des nouvelles technologies avec les enfants présentant un trouble du spectre autistique. C'est la FIRA, avec ses partenaires universitaires et associatifs européens, qui vient de publier ce livret, qui présente des stratégies qui peuvent être utilisées par les parents et les professionnels lorsqu'ils ont un problème avec les nouvelles technologies, justement quand elles sont utilisées par un enfant autiste. Alors je donne un exemple très concret, puisqu'on a encore quelques secondes. Par exemple, si votre enfant a un problème d'addiction face aux outils numériques, eh bien le parent se dit que faire. Eh bien, dans ce petit livret, vous allez trouver des petits trucs et astuces du genre créer des cartes 30 minutes qu'on lui donne au début de la semaine et puis comme ça il gère son temps lui-même, ou un petit timer que l'enfant peut utiliser tout seul. Vous voyez, ça va toucher et intéresser des parents et des professionnels bien au-delà de celles et ceux qui s'occupent des enfants avec un trouble du spectre autistique. Voilà, merci à tous les deux encore une fois d'avoir été avec nous. À bientôt sur Vivre FM.